Bonjour et bienvenue sur Radio Campus 1, 94.5 FM. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de...
Marie.
Barani.
Et Monsieur Daubard.
Alors, aujourd'hui, nous allons faire une émission sur le mur de Berlin. Je laisse la parole à Marie.
Donc, on va poser des questions à Monsieur Daubard, proprement. Alors, première question, que représente le 9 mars ? Le 9 novembre.
Alors, le 9 novembre, c'est une date qui, tout au long du XXe siècle en Allemagne, a eu une grande importance. Le premier 9 novembre que l'on rencontre dans l'histoire de l'Allemagne, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale, les derniers jours, le 9 novembre 1918, où l'empereur Guillaume II est obligé d'abdiquer. Et deux jours plus tard, le 11 novembre, l'armistice sera signé en France. Premier 9 novembre de l'histoire allemande. Deuxième 9 novembre, il est assez difficile historiquement, puisque c'est le 9 novembre 1923, avec le putsch d'Adolf Hitler. Par chance, ce putsch n'a pas réussi à Munich, parce qu'il tentait à l'époque de prendre le pouvoir. Et c'est à partir de ce putsch qu'il sera arrêté, mis en prison. Il en sortira rapidement, il y aura écrit Mein Kampf, etc. Donc c'est une date qui n'est pas des plus agréables dans l'histoire allemande. Puis, toujours lié à Adolf Hitler, et encore un 9 novembre, et à nouveau pas agréable du tout, 9 novembre 1923, c'est la nuit de cristal, c'est-à-dire qu'il y a eu le début très très visible de la déportation des Juifs en Allemagne, puisque les SA et les SS sont allés dans les magasins des Juifs, sont allés dans leurs maisons et ont tout cassé. Alors pourquoi cristal ? Parce que les vitrines qui avaient été cassées jonchaient le sol des trottoirs, et le soir, avec la lumière des réverbères, eh bien cela scintillait comme du cristal. Plus proche de nous et plus agréable, le 9 novembre, et c'est celui-ci dont vous voulez parler, le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin.
Alors, deuxième question, pourquoi le mur de Berlin a-t-il été construit ?
Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. Vous vous souvenez certainement de vos cours d'histoire. Le 8 mai 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette Deuxième Guerre mondiale s'achève avec des pertes importantes, énormément de pertes dans la population civile. Et l'Allemagne, qui est un pays complètement à genoux et qui est un pays complètement en ruine. C'est un pays qui est occupé, puisque l'idée des Alliés est d'anéantir le nazisme. Le nazisme, c'est-à-dire ce que Hitler représentait avec ceux qui l'ont suivi. Les troupes entrent par plusieurs parties en Allemagne. Les troupes britanniques vont libérer le nord de l'Allemagne. Les troupes américaines vont libérer le centre et une partie du sud. Quant aux troupes françaises, elles vont libérer aussi une partie du sud, qui est à peu près le Bade-Wurtemberg actuel et la Sarre. De l'autre côté, à l'est, ce sont les troupes soviétiques qui vont entrer en Allemagne et qui vont libérer, entre guillemets, toute cette partie. Vous voyez qu'à partir de 1945, l'Allemagne est un pays occupé par quatre nations différentes. Les États-Unis, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et la France, qui forment un bloc que l'on pourrait qualifier de capitaliste. Et à l'Est, l'Union soviétique, qui fera le bloc communiste. Certains historiens disent que aussi bien le bloc capitaliste que le bloc communiste avaient comme ambition de libérer l'Allemagne et d'y établir une démocratie. Le seul problème, c'est qu'ils n'avaient pas la même définition du mot démocratie. D'un côté, vous aviez une démocratie dite capitaliste, de l'autre, une démocratie dite communiste. Et les deux sont antagonistes, c'est-à-dire que ce sont deux systèmes politiques qui s'opposent, et automatiquement, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, le 30 avril 1945, Hitler se suicide dans son bunker à Berlin. Il va y avoir des successeurs, parmi ceux-là, Dönitz, l'amiral Dönitz, qui va bientôt lui aussi se suicider. Mais c'est un pays complètement désorganisé qui apparaît. Et là, dans chacune des régions qui ont été libérées par telle ou telle nation, on va voir apparaître des gouvernements locaux, en quelque sorte, je simplifie, mais des petits gouvernements locaux, qui vont essayer de maintenir la situation en Allemagne. Et puis, les pays en tant que tels vont eux aussi tout faire pour réussir à recréer le plus vite possible une vie dans cette Allemagne qui est à feu et à sang. Nous arrivons en 1945 à créer quatre zones. Parmi ces quatre zones, il y en a une qui est la zone soviétique, celle qui est à l'est, en plein milieu de laquelle se trouve la ville la plus importante d'Allemagne à l'époque, c'était Berlin, qui était la capitale. Et la ville de Berlin va être elle-même divisée en quatre zones. Vous imaginez un petit peu les problèmes qui vont apparaître à ce moment-là. D'un côté, au nord, à l'ouest, l'Angleterre, les États-Unis, la France. De l'autre côté, à l'est, l'Union soviétique. Et en plein milieu, ces quatre zones à nouveau. Pour se rendre à Berlin lorsque l'on était dans l'une des trois zones de l'ouest, il fallait passer par ce qu'on appelait un corridor. C'est-à-dire que l'on pouvait prendre sa voiture ou le train et se diriger vers Berlin-Ouest, l'une des trois zones qui correspondait à l'Allemagne de l'Ouest. Mais il y avait des contrôles. Au départ, c'était des choses qui se faisaient relativement simplement. Et puis au fil du temps, eh bien, ça ne s'est pas fait aussi simplement. Parce que de plus en plus, chacun a essayé d'imposer ses idées politiques dans la partie dans laquelle il se trouvait. On a très vite dit, notamment du côté américain, eh bien, il faut recréer une monnaie. Cette monnaie, c'est le Deutschmark. Mais l'idée, c'était que toute l'Allemagne ait la même monnaie. Les soviétiques ne voulaient pas de la monnaie de l'Ouest. Donc, ils vont créer de leur côté leur propre monnaie, le Mark Est. On ne va pas entrer dans tous les détails, mais la monnaie, ça a été quand même un point très important dans le fait que les deux parties ne se sont pas entendues. En 1948, il va y avoir ce qu'on va appeler le blocus de Berlin. C'est-à-dire que la partie soviétique va dire, eh bien, nous, on va encercler toute la partie ouest, c'est-à-dire la partie française, la partie anglaise, la partie américaine de Berlin, pour les contraindre en quelque sorte à capituler, c'est-à-dire à dire ben, on ne peut plus survivre, un petit peu comme lorsque au Moyen-Âge on faisait le siège d'un château fort, eh bien on faisait le siège de manière à ce que les gens ne puissent plus rentrer et plus sortir et qu'au bout d'un moment ils soient obligés de se rendre parce qu'ils ne pouvaient plus se nourrir. Bien. L'idée était cela, était la suivante. Si maintenant, en fermant les corridors qui menaient de l'Allemagne de l'Ouest à Berlin-Ouest, quelqu'un venant de l'Ouest essayait de le franchir, c'était un casus belli, un cas de guerre. Alors, il fallait trouver une solution pour éviter que les populations qui se trouvaient à Berlin-Ouest ne meurent pas de faim, etc. Parce que sinon, c'était une catastrophe qui guettait ces gens-là. Les Américains ont eu une idée, c'est de faire un pont aérien. C'est-à-dire que toutes les trois minutes, il y avait un avion qui décollait de Francfort, en Allemagne de l'Ouest, pour se rendre à Berlin et pour ravitailler les gens. Ce que l'on appelait les Rosinenflugzeuge, c'est-à-dire les avions qui apportaient la nourriture. Dit Rosinen, ce sont les petits raisins secs. Donc c'est une image que l'on donne pour expliquer ce qui s'est passé. Au bout de 9 mois ou 11 mois, je ne sais plus, les soviétiques se sont aperçus que ça ne marchait pas et ils ont laissé tomber le blocus. En revanche, à partir de 1949, en mai 1949, le bloc ouest a créé la République fédérale d'Allemagne à partir des trois zones anglaises, américaines, françaises, à laquelle, bien sûr, appartenait Berlin-Ouest, ça appartenait à ces zones. Et de l'autre côté, le 7 octobre 1949, la zone soviétique va créer la République démocratique allemande. On l'a vu tout à l'heure, ces deux pays ne s'entendent pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions politiques et les mêmes opinions économiques. En Allemagne de l'Est, on ne pouvait pas faire autant de choses que l'on pouvait en faire en Allemagne de l'Ouest, puisque tout était planifié, etc. Et il y a bon nombre d'intellectuels, de personnes qui jusqu'alors avaient de l'argent, qui vont décider de quitter l'Allemagne de l'Est pour se rendre en Allemagne de l'Ouest. C'est encore chose facile. Mais très vite, les dirigeants d'Allemagne de l'Est s'aperçoivent qu'il y a une population qui est en baisse, et une population qui perd ses médecins, ses avocats, etc. Donc, c'est très difficile de faire tourner un pays quand on n'a pas ce type de population en nombre suffisant. Si on n'a pas assez de travailleurs, c'est un problème aussi. Mais en l'occurrence, ceux qui partaient le plus, c'était les personnes qui étaient médecins, etc. Donc, l'idée va faire petit à petit son chemin que cette frontière va devoir devenir de plus en plus difficile à franchir. On va augmenter de plus en plus les contrôles aux frontières. Ces contrôles vont tourner parfois à des chicaneries, c'est-à-dire qu'on va embêter les gens pour des détails. Et puis, surtout, on va vérifier que personne ne fuit. Seulement, les gens continuent de fuir. Alors, même si le premier secrétaire du parti a dit dans un discours peu de temps avant qu'il n'était pas question de construire un mur entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, dans la nuit du 13 août 1961, les forces d'Allemagne de l'Est et les forces soviétiques vont construire ce mur de Berlin. Ce mur de Berlin qui va être le symbole de la séparation entre les deux Allemagnes.
Donc, dernière question. Comment s'est déroulée la chute du mur ?
Alors, la chute du mur, ça a été un grand moment. Mais pour bien comprendre cette chute du mur, il faut peut-être que nous revenions un petit peu à ce qui s'est passé après la construction du mur. Cette construction du mur s'est faite très rapidement et à séparer parfois des membres d'une même famille. C'est-à-dire que des parents ne pouvaient plus voir leurs enfants qui étaient de l'autre côté. Parfois des fiancés ne pouvaient plus rejoindre celui ou celle qu'ils aimaient parce que l'un ou l'autre était de l'autre côté de ce mur. Franchir la frontière n'était pas chose facile pour un Allemand, qu'il soit de l'Est ou de l'Ouest, et encore peut-être plus difficile pour quelqu'un qui était de l'Est. Si vous demandiez un visa, eh bien, il fallait un délai de 2 à 3 ans pour obtenir une réponse qui n'était pas obligatoirement favorable. Si vous vouliez partir avec tous les membres de votre famille, au mieux, on vous disait, eh bien, le papa et la fille partent, les autres ne partent pas. Vous ne pouviez pas voyager vers l'ouest avec toute votre famille pour le cas où vous auriez oublié de rentrer. D'accord ? D'autre part, la vie était une économie planifiée, c'est-à-dire que on disait il faut faire tant de voitures, tant de choses, etc. Et dans les magasins, on ne trouvait pas grand-chose. Par exemple, quelque chose que j'évoque toujours avec mes élèves et qui les surprend, délai de livraison d'une voiture. Alors attention, vous envisagez les voitures telles que nous les connaissons ici. Il faut envisager des voitures telles que la Trabant, qui était une voiture en plastique, que les Allemands de l'Est appelaient die Rennpappe, c'est-à-dire la voiture de course en papier mâché, qui était dangereuse, c'est-à-dire qu'en cas d'accident à 30 km/h, on pouvait y laisser sa vie. en pointe, les jours où on n'avait pas de vent contraire, on roulait au maximum à 100 km/h. Et il faut savoir que c'était un moteur de temps. Un moteur de temps, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le moteur qu'il y a sous le capot des véhicules de vos parents. C'est, vous avez un moteur 4 temps à explosion. Là, c'est un moteur de vélomoteur un peu grossi, c'est-à-dire qu'on mettait dedans un mélange essence-huile pour le faire fonctionner. Alors aujourd'hui, où on parle beaucoup de pollution à cause du diesel, c'était encore pire que le diesel au point de vue pollution. Bien. Donc, délai de livraison pour une voiture comme ça, 14 ans. On avait le temps de voir venir. Bien. Dans les magasins, on ne trouvait pas toujours ce que l'on voulait, c'était selon livraison. Les gens n'étaient pas très motivés puisqu'ils ne trouvaient pas à acheter énormément de choses dans les magasins. En revanche, quand ils trouvaient quelque chose à acheter, eh bien, ils avaient tendance à l'acheter même s'ils n'en avaient pas besoin parce qu'il y avait des économies parallèles qui s'étaient instaurées. C'est-à-dire qu'on pouvait faire une économie de troc. Ah, toi, tu as un pneu de voiture ? Oui, c'est bien. Moi, il m'en faudrait. Hein. Mais oui, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange ? Bah, je sais pas. Moi, j'ai un buffet. Ah, bah oui, j'en trouve pas. Bah voilà, on échange le pneu de voiture contre un buffet, etc., etc. Et puis, il y avait, comme dans bon nombre d'économies, quelque chose qui est répréhensible, et qui a toujours malheureusement existé dans les périodes difficiles comme ça, c'est le marché noir. C'est-à-dire que, moi, j'ai un pneu de voiture. Tu as besoin d'un pneu de voiture, puis tu peux rien me donner en échange. Non, non, non. Bon, ben, un pneu de voiture, je sais pas, moi, c'est sans Ostmark. Eh bien, moi, je l'ai, là, si tu le veux, mais c'est 200. Voilà, c'est ce qu'on appelle le marché noir. Bien. Donc, vous voyez, c'est un pays qui fonctionnait comme cela. Les gens, on l'a vu précédemment, voulaient partir. Mais c'était pas facile d'organiser des manifestations. Chez nous, nous sommes dans une démocratie, donc quand les gens ne sont pas d'accord, ils ont le droit de protester, ils ont le droit de manifester, etc. Là-bas, valait mieux éviter parce que les gens étaient surveillés par ce qu'on appelait la Stasi, c'est une abréviation de Staatssicherheit, c'est-à-dire la sécurité d'État. On avait facilement des problèmes. Puisque nous sommes dans un établissement scolaire, eh bien, moi, en tant que professeur, j'aurais fait un rapport, par exemple, sur chacun d'entre vous, si nous étions en Allemagne de l'Est, pour dire, par exemple, eh bien, Marie a tenu des propos qui ne sont pas politiquement corrects, ou bien Barani a dit des choses qu'il ne fallait pas. Et vous, vous auriez dit la même chose à vos parents en disant, oh, « Monsieur Dobard, dans ces cours, il y a des choses, c'est pas politiquement correct, ça ne va pas. » Vous voyez un petit peu l'état d'esprit dans lequel vivaient certaines personnes. Bien. Donc, quand on vit dans un tel système, il est très difficile d'essayer de faire changer les choses. Alors, bien sûr, la contestation a quand même existé. Et au fil des ans, cette contestation a grandi. Certains ont réussi à fuir, pas tous, mais certains. Certains, malheureusement, ont payé cette tentative de fuite de leur vie. Et puis, certains ont dit « Non, non, moi je ne veux pas fuir, je veux rester dans le pays et c'est le pays que je veux modifier. » Nous sommes en 1988-89. Nous sommes à Leipzig. Leipzig, c'est une très belle ville qui est au sud de l'Allemagne de l'Est. Et là, il y a de plus en plus de gens qui décident qu'il faut modifier le système. Alors ils se rassemblent, surtout dans une église protestante qui est dans le centre de Leipzig. Alors, au départ, ils sont très peu nombreux parce que c'est très dangereux. Puis de plus en plus, c'est les réunions du lundi, les gens viennent. Nous arrivons en 89, là il y a de plus en plus de personnes. Et puis de plus en plus de personnes qui ont compris qu'elles pouvaient fuir le bloc de l'Est en passant par la Hongrie, parce qu'à partir de l'été, la Hongrie et l'Autriche ont retiré les barbelés à la frontière. Donc, on voit plein de personnes qui partent comme ça. Et la contestation qui grandit. Bien sûr, la Stasi s'en aperçoit, infiltre tout cela, mais les gens sont cette fois-ci très décidés. Nous arrivons en novembre 1989. Ce jour-là, à l'ouest, rien de spécial. C'est une journée comme une autre, on va travailler. Et le soir, nous sommes surpris parce que nous entendons sur les différents médias, notamment à la télé, que Günther Schabowski, qui est ministre à l'Est, lors d'une conférence de presse avec des journalistes de l'Ouest, n'étant pas tout à fait sûr de son dossier, a dit que, à partir de maintenant, désormais, tout Allemand de l'Est qui souhaite aller à l'Ouest va pouvoir quitter le pays. Nous, on n'en croit pas nos oreilles, et les Allemands de l'Est non plus. Et ce soir-là, il y a comme une vague, un déferlement de petites trabants, avec leur pollution, etc., de gens qui quittent leur domicile à Berlin pour aller vers le mur et qui vont essayer de passer. Les gardes frontières, eux, ne sont pas au courant. Ils n'ont pas entendu M. Schabowski parler. Et c'est là que le point est critique. On risque éventuellement une confrontation armée. Heureusement, tout va bien se passer après de nombreuses tractations et un flot d'Allemands de l'Est va pouvoir traverser aux différents points frontières pour aller voir comment ça se passe à l'Ouest. Le mur de Berlin, nous sommes le 9 novembre 1989. Le mur de Berlin vient de tomber sans heurts, sans morts, alors que quelques jours avant, j'étais moi-même à la frontière entre les deux Allemagnes, et je peux vous dire que nous avons été observés par les gardes frontières de l'Est, comme d'habitude, avec armes au poing, pour le cas où nous aurions essayé de passer de leur côté. Le mur de Berlin tombe le 9 novembre 89, sans mort, en douceur. Et là, va s'enclencher petit à petit un processus, ce serait long de tout détailler, mais un processus qui va nous conduire à la réunification. C'est-à-dire que de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest, on ne va faire plus qu'un seul pays, qui est aujourd'hui l'Allemagne de l'Ouest que nous connaissons. Et ça, ce sera le 3 octobre 1990. Alors certains, pour conclure, certains disent « Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé le 9 novembre 1989 comme date qui correspondrait à notre 14 juillet ?» Puisque les Allemands, leur 14 juillet à eux, c'est le 3 octobre. Eh bien tout simplement, du fait des problèmes qu'il y a eu à d'autres 9 novembre, pour pas que les gens disent que l'on commémore la tentative de putsch avortée de Hitler à Munich ou la nuit de cristal du 9 novembre 1923. Voilà en quelques mots ce qu'est le 9 novembre 1989 dans l'histoire allemande.
Merci pour ces informations. Et puis on vous dit au revoir et à la prochaine.
Au revoir, à bientôt.